de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. La Russie attaque l'Ukraine et des explosions se font entendre partout. La crise s'intensifie. L'espace aérien ukrainien est fermé à l'aviation civile. Hong Kong lance un passeport vaccinal et des restrictions COVID plus strictes. Le président Jokowi appelle à l'arrêt immédiat des tensions entre la Russie et l'Ukraine. MUI Babel est prêt à accueillir le Congrès international halal 2022. Production de vaccins COVID de l'ASEAN comme une preuve de la confiance du monde à l'Indonésie. L'ambassade d'Indonésie encourage l'accélération de la mise en œuvre de la CP Indonésie-Sri Lanka. Voici le journal complet. Une série d'explosions aurait été entendue à Kiev, la capitale ukrainienne, et dans plusieurs villes proches de la ligne de front de l'est de l'Ukraine et le long de la côte du pays, quelques instants après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire. Des correspondants de l'AFP ont également entendu des explosions dans la ville portuaire d'Odessa sur la mer Noire, près de la ligne de front de l'enclave rebelle soutenue par la Russie et juste en face de la Crimée sous contrôle russe. Des explosions se sont également produites à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, située à 35 km ou 20 000 au sud de la frontière russe et à l'extérieur de la zone orientale où les forces ukrainiennes combattent les rebelles soutenus par Moscou depuis 2014. L'Ukraine a déclaré jeudi que son espace aérien était fermé à l'aviation civile en raison d'un risque élevé pour la sécurité. Les régulateurs européens de l'aviation ont également mis en garde contre les dangers de survoler les frontières de la Russie et de la Biélorussie en raison de l'activité militaire là-bas. Le président russe Vladimir Poutine a autorisé jeudi une opération militaire dans l'est de l'Ukraine, considérée comme le début de la guerre en Europe. L'agence ukrainienne de contrôle du trafic aérien a déclaré que l'espace aérien du pays était fermé aux vols civils à partir de jeudi à minuit 45 GMT et que le service de trafic aérien avait également été suspendu. Les autorités de Hong Kong ont lancé jeudi des passeports pour le vaccin qui exige que les personnes de 12 ans et plus aient au moins une vaccination contre la COVID-19 et ont également resserré les restrictions. Les résidents doivent montrer leur carnet de vaccination pour accéder à des lieux tels que les supermarchés, les centres commerciaux et les restaurants. Ils doivent également porter un masque pour toutes les activités de plein air et ne seront pas autorisés à retirer le masque pour manger ou boire dans le transport en commun. Le gouvernement a déclaré jeudi dans un communiqué que Hong Kong était désormais confronté à une situation épidémique très grave qui continue de s'aggraver rapidement. Le président Joko Widodo appelle le monde à cesser immédiatement les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Le président Joko Widodo cité sur son réseau social, cité jeudi 24 février 2022, demande à toutes les parties concernées de faire preuve de retenue afin de parvenir à la paix dans le monde. La rivalité et les tensions en Ukraine doivent être arrêtées dès que possible. Le président Joko Widodo a souligné qu'il partage le point de vue avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, selon lequel la gestion de la crise ukrainienne doit être menée avec soin afin qu'une crise majeure, le désastre pour l'humanité, puisse être évité. Le Conseil indonésien des ulémas MUI de la province des îles Bangka Belitung renforce les préparatifs pour accueillir le Congrès international halal du 21 au 25 mars 2022. Le Congrès devrait être ouvert directement par le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo. Selon Ahmad Lutfi, le Congrès international halal a réuni 50 pays d'Amérique, d'Europe, du Moyen-Orient et un certain nombre de pays voisins avec un total de 500 participants. Ahmad Lutfi a déclaré que le Congrès serait un élan pour les régions de la province de Bangka Belitung afin de promouvoir des secteurs supérieurs tels que le tourisme halal, les produits halal, des micro, petites et moyennes entreprises, OMKM, et d'autres secteurs commerciaux halal. Après le Congrès, les participants seront invités à visiter différents quartiers de Bangka Belitung, à découvrir les destinations touristiques et les produits halal de la région dans l'espoir d'être promus dans leur pays d'origine. Le ministre indonésien des entreprises d'État, BUMN, Erick Thohir, a déclaré que des nouvelles positives sont venues de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a donné le signal de faire de l'Indonésie une plaque tournante ou un centre pour la production de vaccins COVID-19 en Asie du Sud-Est. Erick Thohir, dans sa déclaration écrite à Jakarta, a déclaré jeudi que cela ne peut pas être séparé après que l'Indonésie a été désignée comme l'un des bénéficiaires du transfert de la technologie des vaccins à base d'ARNm. La synergie entre le ministère des entreprises publiques, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires étrangères est la clé pour gagner la confiance de l'OMS. Il a ajouté que Biopharma Société Anonyme Persero est une société indonésienne qui produira des vaccins à la ARNm. La société holding des entreprises publiques pharmaceutiques est connue depuis longtemps comme le plus grand fabricant de vaccins d'Asie du Sud-Est, avec une capacité de production biopharmaceutique de 3,2 milliards, dont 4 types de vaccins qui ont été exportés vers plus de 150 pays. L'ambassadrice indonésienne au Sri Lanka, Dewi Gusina Tobing, a déclaré qu'elle encourageait l'accélération de la mise en œuvre des négociations de l'accord commercial préférentiel ACP entre l'Indonésie et le Sri Lanka. Cela a été transmis par Dewi lors de sa rencontre avec le ministre Sri Lankais de l'Industrie, Wimal Wirawansa, dans son bureau jeudi 24 février. Selon elle, les négociations de l'ACP ouvriront la voie à une coopération économique et commerciale accrue entre les deux pays. Dewi Gustina, dans une déclaration écrite à Jakarta, a souligné jeudi que davantage des produits indonésiens entreront sur le marché sri lankais, à la fois sous forme de produits transformés et de produits finis, pour répondre aux besoins antérieurs du Sri Lanka et pour soutenir son industrie à des fins nationales et d'exportation. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Ces auditeurs, bonsoir. Voici le corps diplomatique ayant pour le titre « La communauté indonésienne anime la 38e commémoration de la fête nationale de Brunei Darussalam ». Le peuple indonésien a participé au 38e défilé de la fête nationale de Brunei Darussalam. La participation était représentée par l'ambassade d'Indonésie en collaboration avec l'association communautaire indonésienne PERMAI. L'ambassade d'Indonésie au Brunei, dans son communiqué de presse reçu par Antara, a déclaré qu'il y avait des participants qui portaient 12 vêtements traditionnels de nombreuses provinces d'Indonésie. Ensuite, 24 participants portaient également des uniformes de batik noir et marron. Le défilé était dirigé par le président de PERMAI, Muhyiddin Umar. Les délégués ont parcouru 400 mètres à travers les rues de la capitale jusqu'à Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddin pour rendre hommage au sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, à la famille royale ainsi qu'aux fonctionnaires de Brunei Darussalam dans la tribune du terrain. Le défilé a également été suivi par le chef des représentants étrangers au Brunei Darussalam, y compris l'ambassadeur indonésien au Brunei Darussalam, Sujat Miko. L'ambassadeur Sujat Miko a exprimé sa fierté à la communauté indonésienne qui célèbre chaque année le défilé de la fête nationale de Brunei, qui présente également la richesse de la culture indonésienne à travers les diverses vêtements traditionnels qu'il portait. La fête nationale est un défilé annuel organisé pour célébrer la fête nationale de Brunei qui est commémorée tous les 23 février. Sur la base du protocole sanitaire appliqué au Brunei, le défilé de cette année s'est déroulé à plus petite échelle que le précédent. Le défilé de cette année a réuni 161 groupes ou délégations avec un nombre total de 3800 participants composés de militaires, gouvernementaux, privés, scolaires et communautaires, locaux et étrangers. La restriction sur les participants a également affecté le nombre de participants avec un total de 36 Indonésiens. Outre l'Indonésie, les communautés étrangères qui ont participé au défilé de cette année étaient des communautés de Malaisie, des Philippines, de Thaïlande et d'Inde. Chers auditeurs, c'était le coin diplomatique pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdraging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui, le 25 février. Le 25 février 1964, Cassius Clay ou Muhammad Ali a remporté le premier titre mondial de boxe de poids lourd. il a battu le champion en titre Sonny Liston. À cette époque, il avait 22 ans. Au moment de sa victoire, environ 8300 spectateurs se sont réunis à l'Arena Convention Hall de Miami Beach pour voir si Cassius Clay, surnommé Louisville Lip, pouvait gagner. Pour fêter son titre de champion, Clay s'est ensuite rendu à une soirée privée dans un hôtel de Miami à laquelle assistait son meilleur ami, Malcolm, qui est un leader du groupe musulman afro-américain. Clay a annoncé qu'il avait rejoint la Nation of Islam et défendu le concept de ségrégation raciale tout en parlant de l'importance de l'islam dans sa vie. Cette même année, Clay a décidé de changer son nom d'un nom musulman à Muhammad Ali. Le 25 février 1986, Corazon Aquino a été nommé président des Philippines. L'investiture de Aquino a mis fin au règne de 20 ans de Ferdinand Marcos. Corazon Aquino a dirigé les Philippines de 1986 à 1992. Elle est devenue la première femme présidente d'Asie. La lutte politique de Corazon ne peut pas être séparée du meurtre subi par son mari, une figure populaire de l'opposition, le sénateur Benigno Aquino Jr. Son mari a été tué après son atterrissage à l'aéroport international de Manille à son retour chez lui le 21 août 1983. Il a ensuite été invité par l'opposition à s'opposer au régime autocratique exercé par le président Ferdinand Marcos. Le 25 février 1991, déclaration de dissolution du Pacte de Varsovie. Le Pacte de Varsovie est une alliance de défense des pays communistes socialistes de la région de l'Europe de l'Est ou ce qu'on appelle le Bloc de l'Est en tant que rival du Pacte de défense du Bloc occidental de l'OTAN. Le Pacte de Varsovie a connu une crise due à l'émergence d'un vague de révolution démocratique dans la région de l'Europe de l'Est ainsi que la division entre les pays communistes. Le 25 février 1991, le Pacte de Varsovie a été déclaré dissous lors d'une réunion des ministres de la Défense et des ministres des Affaires étrangères des pays membres en Hongrie. Le 1er juillet 1991, à Prague, le président tchécoslovaque Václav Havel a officiellement annoncé la fin du Pacte de Varsovie. Chers auditeurs, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Doakan saja.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et en pour le titre, l'Indonésie et la Corée du Sud discutent de questions commerciales bilatérales et régionales. Le ministre indonésien du Commerce, Muhammad Lutfi, a reçu la visite du ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, MOTIE, Moon Sung-wook, au bureau du ministère du Commerce de Jakarta, lundi, le 21 février. Muhammad Lutfi a déclaré que la Corée du Sud était l'un des principaux partenaires commerciaux stratégiques de l'Indonésie, tant au niveau bilatéral que régional. Ainsi, sa partie salue la visite du ministre Moon et espère que les deux pays encouragent mutuellement une reprise économique mondiale forte et durable, conformément aux thèmes principaux de la présidence du G20 d'Indonésie 2022, à savoir coopérer ensemble, récupérer plus fort. Le ministre Lutfi a indiqué que le droit du jour principal de la réunion bilatérale des deux ministres était de mettre en évidence les questions de coopération commerciale, bilatérale et régionale. Ils ont discuté entre autres de l'achèvement du processus de ratification de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et la Corée, IKCOPA, et de l'accord de partenariat économique régional, RCEP, dont l'achèvement est prévu en mars 2022. Il a également félicité la Corée du Sud car l'accord RCEP est mis en œuvre en Corée du Sud depuis le 1er février 2022. Muhammad Lutfi espère que la mise en œuvre de l'IKCOPA et l'approbation du RCEP auront un impact positif sur l'économie de l'Indonésie, de la Corée du Sud et du monde. Muhammad Lutfi a souligné que l'Indonésie se félicitait de la proposition de la Corée du Sud d'encourager la coopération dans la chaîne d'approvisionnement pour certains produits. L'Indonésie s'est engagée à promouvoir une reprise économique mondiale forte et durable. L'Indonésie encourage également la Corée du Sud à investir plus activement en Indonésie. La réunion a également discuté de diverses questions stratégiques, y compris les questions prioritaires de la présidence indonésienne du G20 en 2022. Ceci est particulièrement lié à l'ordre du jour de la réunion du groupe de travail sur l'investissement commercial et l'industrie TIIWG et sa contribution à la réalisation des objectifs de développement durable, ODD, des politiques commerciales entre les deux pays et la coopération. Le ministre du Commerce, Mohamed Lotfi, a demandé le soutien du gouvernement sud-coréen lié à la mise en œuvre le TIIWG dans le cadre de la présidence indonésienne du G20 en 2022, notamment en ce qui concerne l'ajout des questions industrielles au groupe de travail. Cependant, le ministre Moon a déclaré que l'Indonésie est un partenaire stratégique pour la Corée du Sud, en particulier avec la nouvelle politique du Sud initiée par le président sud-coréen Moon Jae-in. Les relations bilatérales entre les deux pays continuent d'évoluer dans une directive positive dans divers domaines, en particulier le commerce et l'investissement. Il pense que cela sera encore renforcé par l'engagement des deux pays à encourager la mise en œuvre de l'IKCEPA et l'approbation de l'accord de partenariat économique régional RCEP. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Indah bola pingpong, Bola indah, bola pingpong, masihkah kau kosong? Bolehkah aku membelai pipimu yang aduhai? Mata indah, bola pingpong, masihkah kau kosong? Bolehkah aku membelai jidatmu yang
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Vous êtes avec moi, Audrey, et je vais vous présenter la danse Raigo. Chers auditeurs, Raigo est une danse traditionnelle qui représente une victoire dans les affaires, la joie et la gratitude pour une récolte heureuse. Cette expression est devenue plus tard un mouvement et en même temps une expression de culte des créateurs. Raigo a commencé à se développer chez les habitants du centre de Sulawesi. En particulier, le groupe ethnique Kulawi, tous les niveaux du peuple Kulawi n'ont pas cette compétence de danse. On suppose que Raigo n'est pas destiné qu'aux Totuangata ou aux personnes âgées. Ce qui fait que les connaissances et les compétences nécessaires pour faire cette danse ne sont limités qu'à la génération plus âgée, de sorte que maintenant le nombre de danseurs de Raigo diminue. Le peuple Kulawi de centre de Sulawesi connaît certaines danses Raigo. Cette danse est presque toujours présente dans les étapes de la vie du peuple Kulawi. L'un d'eux est Raigo Mpai. Raigo signifie danse, tandis que Mpai signifie riz. Depuis son origine, Raigo Mpai, ou également connu sous le nom de Raigo Vunja, est une danse qui se déroule après la récolte du riz. Le rythme est plein de passion, de désir et aussi des croyances en le Créateur. Une poésie chantante contenant un message moral accompagne cette danse. De plus, il existe un type de danse Raigo, Potinowu, qui est exécuté lors de la cérémonie pour payer la dot par le mari. Puis le Raigo Pobalai, qui a lieu lors de la cérémonie de mariage. Et Raigo Punchumania, qui a lieu lors de la cérémonie de circoncision. Il y a aussi Raigo Bobonka Ombo, qui a lieu les 7 jours de la mort d'un noble. Raigo Popowata est retenu en attendant les cadavres. Raigo Mpainu est détenu lors d'une cérémonie de bain pour les héros qui iront à la guerre. Raigo Papatunau est tenu lors de la construction d'une nouvelle maison. Et Raigo Pankasuya est tenu pour accueillir les invités. L'accompagnement de la danse Raigo est généralement chanté dans un tempo con brio, delce, demasia, forte ou presto qui correspond au thème héroïque et patriotique. La chanson d'accompagnement pour Raigo a d'abord été chantée par un chanteur solo dirigé par Tapanguli Raigo, puis suivie de chants par des hommes. Bonjour, chers auditeurs, c'est tout le magazine culturel.
semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi mau menetes. Alasannya seringkali ku dengar. Alasan yang seringkali kau ucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa yang telah kau lakukan kepadaku. Sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas telah berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Ini jalan yang engkau mau. Mungkin ini jalan yang kau inginkan. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa ceritanya.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'Indonésie en couleur intitulé « Où j'aime » développe des teintures textiles naturelles à partir du bois papou marbabou. Sur Jouitard, au début du XXe siècle, l'Indonésie était le leader de plus grand marché mondial des colorants naturels bleu indigo. En effet, l'Indonésie possède une richesse naturelle abondante qui est la matière première, des colorants naturels et jusqu'à présent. Ce potentiel n'a pas été correctement utilisé. En fait, presque toutes les régions d'Indonésie ont une culture d'utilisation des colorants naturels et des ressources naturelles comme matière première pour les colorants naturels. Mais aujourd'hui, on estime que plus de 90% des artisans et industries du textile en Indonésie utilisent encore des colorants synthétiques dans la fabrication de leurs produits textiles. En effet, les matières premières pour les colorants synthétiques sont importées avec une grande capacité et une très grande valeur. En effet, il existe des colorants synthétiques cancérigènes et très dangereux pour les utilisateurs et pour l'environnement. Chers auditeurs, dans ce contexte, l'équipe de recherche de l'UGM, membre du groupe de la recherche de l'Institut indonésien des colorants naturels, Universitas Gadjah Mada, INDI UGM, a mené un programme en aval pour les prototypes de colorants naturels. Ils ont construit un site de production de teintures naturelles à partir des déchets de l'industrie du bois Merbabuaye Pura en Papouasie. La sciure de bois de Merbau est très susceptible d'être utilisée comme source de matière première pour l'industrie des colorants naturels. Chers auditeurs, le chef de l'équipe INDI UGM, India Purwaningsih, a déclaré que les déchets des produits forestiers en Papouasie pourraient atteindre 20 à 30% de la masse totale des arbres. Malheureusement, ces déchets n'ont pas été utilisés de manière optimale et sont généralement jetés dans l'environnement ou brûlés, de sorte qu'ils deviennent un problème pour l'environnement. Ainsi, ils sont partis à réaliser un outil de traitement de la poudre naturelle qui est géré par Karwi Jayapura SA. Outre les matières premières pour Merbau en Papouasie, selon Edia, les colorants naturels peuvent également être fabriqués à partir de matières premières dérivées de plantes indigofera, de déchets de cacao, de déchets d'huile de palme et de déchets d'écorce de mangrove. Bon, cher Jeta, c'est tout l'Indonésie en couleur.
Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Senyum dan kau bisa
selalu hatimu.
Voice of Indonesia.
Derita hidup bersama. terpisah untuk selama-lamanya, agar takkan lagi ku rasa duka derita hidup bersama.
C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson de Sumatra du Sud intitulée Naca Mano Lagi, chantée par Desvi et Sakti. Chers auditeurs, cette chanson parle d'une femme qui ne sait pas quoi faire d'autre pour rendre le cœur de son mari heureux. Il doit aussi accepter le comportement de son partenaire car c'est un homme choisi par ses parents pour être son partenaire de vie. Bon, chers auditeurs, voici Desvi et Sakti vont chanter une chanson intitulée Naca Mano Lagi. Bonne écoute.
Kali ku diam ke dua kali ku jingok ke lama-lama aku jadi kesel aku jadi pegel apa memang sifat awak pecah itu kurang apa aku Segalalah ditorokkan, segalalah ku adokkan, tapi masih baik nak cak mano lagi. Tapi apa nak dikata? Kurang apa aku ini segala segalalah ku adoke tapi masih baik naca mano lagi tapi apa nak dikata kau pilih untukku walau aku sudah tahu dari dulu memang cah itu naca mano mano lagi naca mano lagi naca mano lagi cak mano lagi.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.